En attendant que la camarade d'Uruguay parle de ce qu'est la réalité actuelle des luttes et l'influence de Guevara en Amérique latine aujourd'hui, je crois qu'il était normal, en tout cas c'est ce qu'ont voulu les camarades qui ont organisé cette soirée, rendre un hommage à la figure et au militant révolutionnaire qu'a été le Che Guevara à la veille du 30e anniversaire de sa mort et au moment où cet anniversaire suscite, produit dans bien des pays une série de livres, de débats sur la personnalité et le rôle du Che dans l'histoire. Alors, je voudrais partir de là en constatant deux choses ou deux approches de la personne du Che. Pour les uns, c'est l'image même d'un fanatique totalitaire, d'un désespéré qui est allé jusqu'au suicide personnel, mais qui, plus grave, a entraîné des militants, des militantes dans son aventure. Pour d'autres, au contraire, l'image du Che est devenue une image quasi religieuse, l'incarnation d'une perfection, et qui sait peut-être, maintenant qu'on a retrouvé ses restes, que demain, on va lui édifier un mausolée, ce qui n'était pas du tout dans ses goûts et dans sa personnalité. Nous, qui n'aimons pas et n'avons pas d'idole, ce qui nous intéresse dans la figure du Che, c'est au contraire son caractère humain, c'est le militant, avec ses forces et ses faiblesses, qui symbolise dans son histoire et dans ses actes, en même temps, les grandes expériences, les grandes défaites et les grandes déceptions de ce siècle. Je commencerai par dire quelques mots de l'intérêt que suscite aujourd'hui de la curiosité, il suffit de voir, y compris les drapeaux, les musiques dans le camp, pourquoi 30 ans après sa mort, à la différence de tant d'autres, le Che rencontre un tel écho, réveille autant d'émotions auprès de générations qui, bien évidemment, n'ont pas connu à l'époque son combat et ses conséquences. Je crois d'abord que la vie du Che offre une sorte de résumé accéléré de l'expérience révolutionnaire dans le siècle. Quand on parle du Che, il faut rappeler qu'autour de lui, et dans sa propre histoire, tout va très vite. Il est né en 1928, il est mort en 1967, donc à 39 ans, ça a son importance. Mais encore plus frappant le fait que sa vie politique active, son action politique, n'a duré qu'une quinzaine d'années, moins de 15 ans en réalité. Et même si vous ne connaissez pas bien l'histoire dans le détail, il suffit de rappeler la participation à la résistance au coup d'État au Guatemala en 1954, la guérilla à Cuba de 1956 à 1959, les responsabilités dans les ministères et le gouvernement cubain, les missions diplomatiques à l'ONU, à Punta del Este, dans les pays dits socialistes, la participation à la guérilla du Congo en 1966, et la fin de la guérilla bolivienne, pour comprendre que ces 15 années ont été extraordinairement actives, extraordinairement remplies, et que le Che a vécu en 15 ans, bien plus que beaucoup en de longues vies. Mais ce n'est pas simplement la brièveté de son action qui fait son impact, c'est aussi le fait que dans ces 15 années, j'ai dit, il a parcouru en accéléré l'expérience révolutionnaire de presque tout un siècle. Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que d'abord, en parcourant, tout jeune docteur, l'ensemble du continent latino-américain à motocyclette, il a découvert en quelques mois ce qu'était la marque, le poids, le fardeau de l'impérialisme et de sa domination financière, politique sur le continent latino-américain. Ses conséquences de misère, de pauvreté, y compris de dépendance culturelle, et de là un profond sentiment anti-impérialiste de rébellion qui est le premier ressort de son engagement. Très vite ensuite, à travers l'expérience de la révolution cubaine, il a fait le constat qu'une révolution de libération nationale sur le continent américain, à deux pas de la puissance impériale nord-américaine, ne pouvait aller au bout de ses objectifs en restant dépendante, les mains liées à des accords avec des bourgeoisies nationales corrompues, dépendantes et fragiles, et que la seule solution pour l'indépendance réelle en Amérique latine était la lutte pour le socialisme. Ça marche pas dans quel sens?
Non, ça, ils ont le texte en français, au lieu de l'avoir en castillan.
Que los hispanohablantes lo reciben en francés?
Sí, recibimos
tu voz. Tú también. Bon, il faut réparer ce problème de circuit. Ça fonctionne? Ahora sí. Bueno.
Bon.
Le problème est résolu, il paraît. Si? Vale en castellano? Ok. Donc, le résultat et la conclusion de cette deuxième expérience, celle de la révolution cubaine, c'est une formule restée célèbre, qui peut vous paraître une évidence, mais sur laquelle je reviendrai, ou révolution socialiste, ou caricature de révolution. Enfin, la troisième grande expérience du Che en si peu de temps, cette fois comme ministre et membre du gouvernement de la révolution cubaine, ça a été les rapports, les contacts et les conflits avec ce qu'on appelait encore à l'époque les grands pays frères, c'est-à-dire avec les gouvernements de l'Union soviétique et de la Chine. Et en négociant le soutien, la solidarité, en discutant de la politique internationale avec ses dirigeants soviétiques et chinois, le Che est arrivé à une conclusion terrible qu'il a eu le courage à l'époque, et ça paraît peut-être aujourd'hui facile, mais il faut mesurer ce que signifiait en 1965 ce défi à la face des grandes puissances de ce monde, d'un discours resté célèbre, qui, c'est pas par hasard, a été prononcé à Alger, après un voyage en Chine et en Union soviétique. Dans ce discours d'Alger, le Che adressait un véritable réquisitoire de l'absence d'internationalisme, de la politique d'État menée par les pays dits socialistes. D'un double point de vue, tout d'abord, dans le type d'échange de produits, dans les conditions imposées aux pays les plus pauvres, auxquels l'Union soviétique et dans une moindre mesure la Chine appliquaient les mêmes prix et les mêmes conditions que celles du marché mondial impérialiste. Et le deuxième grand reproche, noir sur blanc dans le discours d'Alger, c'est de ne pas avoir donné toute l'aide inconditionnelle, y compris militaire, aux rébellions du Congo et à la guerre de libération du Vietnam. Ce discours d'Alger est un véritable acte d'accusation contre les manquements à l'internationalisme et à la solidarité révolutionnaire des pays socialistes de l'époque. Et ce n'est pas par hasard si, à son retour à Cuba, à son retour d'Alger, le Che n'est plus jamais réapparu en public à Cuba. Il semble maintenant, d'après tous les documents qui peu à peu sortent, que les dirigeants soviétiques ont fait comprendre au gouvernement cubain que le Che était devenu une personne indésirable, qu'il ne pouvait plus représenter publiquement la révolution cubaine et qu'il fallait ou l'éliminer ou lui trouver un autre usage. Et bien évidemment, il y a là une des raisons, pas la seule, mais une des raisons importantes de ce qu'ont été les dernières années de la vie du Tché et de ce qu'elles peuvent avoir apparemment d'aventures ou de risques pris, que ce soit sa présence au Congo en 66 ou en Bolivie en 67. Ça m'amène à la deuxième question, très discutée aujourd'hui, y compris dans la gauche, et y compris dans la gauche révolutionnaire malheureusement, des auteurs mexicains connus, peut-être pas en Europe comme Castaneda, plus connus en Europe quelqu'un comme Régis Debray, qui ont tendance dans leurs livres ou dans leurs mémoires à présenter maintenant le Che et surtout son action comme une folie romantique et suicidaire, sympathique peut-être, mais complètement étrangère à la réalité. Je crois qu'il faut au contraire expliquer les choix et le comportement du Che par une claire conscience de la gravité de ce qui était en jeu, de ce qu'était la situation internationale des années 60, marquée principalement par la guerre de libération du Vietnam, et son comportement et ses choix traduisent un accord parfait, rare, y compris chez les révolutionnaires, entre sa pensée et ses actes. Le Che était, selon une formule appliquée naguère à Saint-Just, un penseur d'actes. Ce qu'il a dit alors, dans les derniers textes, dans le fameux message à la tricontinentale que beaucoup d'entre vous auront lu au moins en partie, ou entendu citer dans des films, dans des livres, ce sont des choses simples, apparemment des banalités, mais qui pour beaucoup à l'époque, de gens qui se disaient révolutionnaires, qui en géraient l'étiquette, mais qui n'avaient pas un comportement cohérent par rapport à cette qualification, c'était un véritable défi. Vous connaissez tous ces phrases, ou à peu près, le devoir de tout révolutionnaire est de faire la révolution. Évidemment, ça paraît bien banal, mais dire ça, c'est une manière de dénoncer tous les prétendus révolutionnaires qui non seulement ne faisaient pas de révolution, n'essayaient pas d'en faire, mais souvent sabotaient, torpillaient les efforts révolutionnaires des peuples du tiers-monde. Quand le Che disait « révolution socialiste ou caricature de révolution », il expliquait cette formule apparemment évidente en disant « on ne construira pas une société nouvelle, on ne construira pas une humanité nouvelle avec les mêmes méthodes, avec les mêmes rapports de pouvoir, avec la même organisation du travail, il faut bouleverser profondément dans tous les aspects, y compris de la vie quotidienne, les rapports sociaux ». Et dans un texte qui, pour ma génération, était très important, qui s'appelle « Le socialisme et l'homme à Cuba », il critiquait également, jusqu'à la littérature officielle des pays socialistes, jusqu'à la philosophie officielle, en appelant non seulement à une action nouvelle, mais à un renouvellement de la pensée, à sortir des dogmes, à rompre avec une culture pesante, officielle, une véritable orthodoxie d'État. Alors évidemment, une rupture aussi exceptionnelle n'allait pas sans risque, et certains ont reproché et reprochent à Guevara son volontarisme, une volonté sans rapport avec la réalité, son gauchisme. Malheureusement, lui-même, dans ses derniers moments, dans ses derniers combats, a été totalement conscient de cette situation, presque désespéré. Dans le dernier texte public, le message à la tricontinentale dont je parlais tout à l'heure, il parle de la tragique solitude du peuple vietnamien face à l'agression impérialiste. Mais cette tragique solitude du peuple vietnamien, c'est aussi sa propre solitude en Bolivie, dans la tentative de mettre sur pied une guérilla à dimension et à portée continentale, sur lesquels je dirai deux mots. Cette tragique solitude, c'est la sienne. Et cette tragique solitude, précise-t-il, est le résultat d'un moment illogique de l'histoire de l'humanité. d'un moment illogique, parce qu'au moment précisément où des peuples entiers se soulèvent pour secouer la domination de l'impérialisme, les premiers qui devraient s'unir pour les aider et les soutenir font défaut, mettent des bâtons dans les roues et leur tournent le dos. Et finalement, l'expédition du Che en Bolivie, quand on regarde les films aujourd'hui, il existe un très bon film suisse sur les derniers jours du Che en Bolivie, qui est absolument pathétique, on a l'impression d'une poignée de soldats perdus dans une région désertique, donc d'une aventure absolument insensée. En réalité, le Che était pratiquement interdit de retour à Cuba après son discours d'Alger. Il avait tenté au Congo d'aider à une nouvelle phase de la révolution congolaise après l'assassinat de Lumumba et l'indépendance du Congo. Ça avait été un échec. Et il était profondément convaincu que si elle restait isolée dans le monde, la révolution cubaine ne pourrait peu à peu que subir les conditions, le poids, les diktats des bureaucraties et notamment de la bureaucratie soviétique. Pour lui donc, l'impératif qu'il réussisse ou non, mais le devoir d'un révolutionnaire, comme il disait, de faire la révolution, c'était d'abord et avant tout de chercher à rompre le cercle, à rompre le siège, à étendre la révolution, au moins en commençant par le plus proche, par ce qu'il connaissait le mieux, par le continent latino-américain. Et c'était là un projet, peut-être trop ambitieux, peut-être voué à l'échec, et pas si délirant qu'il y paraît. Le projet de guérilla en Bolivie, tous les témoignages maintenant le confirment, et pour notre part, à l'époque, nous y avons été confrontés par nos camarades argentins et boliviens, le projet n'était pas une prise de pouvoir en Bolivie, mais de rassembler quelques centaines de militants argentins, péruviens, chiliens, pour faire de la Bolivie le point de départ d'une subversion continentale. Le projet n'était pas aussi absurde dans ces conditions. Le problème, c'est que tous les calculs sur lesquels il était basé ont été infirmés. Le Che voulait créer 2-3 Vietnam. Il savait qu'il y aurait beaucoup d'erreurs sur ce chemin, qu'il y aurait beaucoup de pertes y compris. Ce qu'il ne savait pas exactement, c'était le sabotage qu'il allait subir. Et aujourd'hui, nous avons par un de ses plus proches compagnons, commandant Benigno, un témoignage d'une réunion absolument pathétique, le 1er janvier 1967, dans les maquis de Bolivie, où le Che a finalement rencontré le secrétaire général du Parti communiste bolivien, venu lui dire tout simplement que l'aide matérielle, les armes, les renforts humains qui avaient été promis ne viendraient jamais. Ce qu'a fait le Che alors, ça a été de réunir la poignée de Cubains qui se trouvaient là, de leur dire « voilà la situation, vous avez le droit de partir, c'était pas prévu ainsi, mais ceux qui se retireront n'ont pas à se sentir ni coupables ni traîtres, ils ont le droit de se retirer ». Pas un ne s'est retiré, mais dès le 1er janvier 1967, il était clair que cette lutte était une lutte non pas pour vaincre, mais pour transmettre un message, pour transmettre un témoignage, et c'est la responsabilité que nous avons de recueillir ce message, de l'interpréter et de lui donner les suites qu'il mérite. Et dire un mot quand même sur les limites, parce que j'ai dit que nous ne voulions pas faire de culte, et il est incontestable que le Che, dans son comportement quotidien, là aussi tous les témoignages concordent, est quelqu'un de juste, d'égalitaire, mais extrêmement dur. Dur parce que le combat était dur, dur parce que malade lui-même, il s'imposait le premier, la dureté qu'il imposait aux autres pour affronter les tâches qu'il s'était fixées. Le problème pour nous est plus un problème politique sur les limites du Che. Avec une telle volonté, avec une telle solitude, inévitablement, et surtout à partir de l'expérience de la révolution cubaine, qui à certains égards peut paraître bizarre, comment le débarquement de 12 survivants en 1956 est arrivé à la conquête du pouvoir 2 ans après, Le Che a beaucoup cru à la valeur de l'exemple, que l'on pouvait transformer les autres en montrant, en donnant l'exemple, donc en comptant plus sur quelques militants valeureux que sur la construction plus difficile, plus lente, mais avait-il le temps, d'équipes, de collectivités. Et les méthodes apprises dans la guérilla, prendre l'initiative, donner l'exemple, ne pouvaient pas marcher, ne pouvaient pas fonctionner pour construire un pays, pour transformer une économie, où il faut là des centaines, des milliers de volontés conscientes, de travail collectif, et où même le dévouement du Che qui est connu dans le travail volontaire, dans le travail égalitaire, dans l'opposition à toute forme de privilèges et de bureaucratie, à Cuba même, comme à l'échelle internationale, ne pouvait pas suffire à remplacer les outils qui manquaient, à remplacer cette force politique collective, consciente, maîtresse de sa mémoire et de son histoire, pour accomplir les tâches à une autre échelle que celle d'une guérilla, de la révolution cubaine, ou même qu'une poignée de révolutionnaires décidés. Ce qui domine dans l'héritage du Che à l'époque, et nous l'avons bien connu, c'est une pensée de la guerre, l'idée que le monde est en guerre, et cette idée a marqué toute une... Ce qui domine, c'est que le monde, ou en tout cas le continent latino-américain, est en guerre, que dans la guerre, il n'y a que des amis et des ennemis, que dans la guerre, il y a certains rapports d'autorité et de commandement qui sont inévitables, et que dans la guerre, la lutte armée, si nécessaire soit-elle, devient pratiquement le principal ou le seul critère de division entre réformistes et révolutionnaires. Il s'est avéré que les choses étaient infiniment plus compliquées. J'ai beaucoup insisté sur l'importance, et ça explique pourquoi cette importance dure, persiste, de ce qu'a été la figure du Che pour une génération qui, malheureusement, la nôtre, a déjà quelques années de militantisme derrière elle. Ce qui importe maintenant, pour terminer, c'est d'insister, et je pense que la camarade d'Uruguay prendra le relais, sur l'actualité de l'héritage. Ce n'est pas seulement un héritage pour le passé, pour comprendre ce que ça a signifié dans le mouvement révolutionnaire international, mais de comprendre que cette présence est encore active en Amérique latine et dans le monde. D'une part parce que, avec d'autres révolutionnaires latino-américains, beaucoup moins connus en Europe, comme le Cubain Meya, comme le Péruvien Mariátegui, le Che représente et démontre la possibilité d'un révolutionnaire communiste, puisqu'il se déclarait communiste, non stalinien et résolument antibureaucratique. De ce point de vue, on peut dire aujourd'hui que le mouvement zapatiste au Mexique porte et fait vivre quelque chose de l'héritage du Che. En particulier, il y a quelque chose de l'esprit du Che dans l'invraisemblable audace qu'a représenté le soulèvement zapatiste du 1er janvier 1994, au moment même, après la chute du mur de Berlin, après la désintégration de l'Union soviétique, en pleine offensive libérale à l'échelle planétaire, en pleine mise en place du traité commercial de l'Amérique du Nord, aller dans un coin perdu de population indienne, soulever la bannière de la révolte, cela apparaît complètement à contre-courant, à contre-sens des vents du moment, et de ce point de vue-là, c'est un coup d'audace et de résistance, bien dans l'esprit et la continuité du Che. Ce qu'il y a aujourd'hui, et la camarade en parlera beaucoup plus et à plus de précision que moi, c'est que tout en gardant cette continuité, cet esprit du Che, il y a en Amérique latine bien d'autres expériences accumulées. Des luttes révolutionnaires d'Amérique centrale, des luttes ouvrières de masse, en particulier au Brésil, Et tout cela a développé une autre culture, beaucoup plus démocratique, beaucoup plus pluraliste, beaucoup plus attachée à la vie, à l'activité propre de la société, dans ses composantes syndicales, paysannes, le mouvement des sans-terre au Brésil, etc. Donc un mouvement social beaucoup plus consistant, puissant, qui accumule ses propres expériences et qui les accumule sur la durée. Et il y a enfin le message des apatistes qui prennent presque, de façon ironique, certains ont vu là-dessus les documentaires sur le sous-commandant Marcos, la formule, qui je crois est bonne pour les nouvelles générations, qui va à l'encontre de ce qu'il pouvait y avoir parfois de sacrifices morbides dans les anciennes. Marcos, au contraire, dit « le devoir de révolutionnaire, c'est de vivre, pas de mourir, mais c'est d'abord de survivre pour être utile ». Dans le monde, enfin, l'image du Che est celle d'un internationaliste en acte. On se souvient d'une des dernières phrases, « qu'importe où me surprendra la mort », mais ce n'est pas simplement une déclaration, puis cette volonté de combattre pour la cause des opprimés, où que ce soit, il l'a portée aussi bien à Cuba, au Congo, en Bolivie, et finalement communiquée au monde entier. Internationaliste, il a également administré la preuve que l'unité était possible entre la morale et la politique, qu'il pouvait y avoir une politique morale, que la politique n'était pas forcément immorale et la morale forcément apolitique, qu'on pouvait tenir les deux bouts de la chaîne, et si son prestige reste aussi fort aujourd'hui, y compris parmi les jeunes, c'est un des rares exemples, peut-être unique, d'un révolutionnaire qui, ayant touché au pouvoir, qui, ayant participé au pouvoir, a été capable de le quitter pour remettre ses forces, son intelligence, au service d'une lutte qui, en aucun cas, ne pouvait s'arrêter à la conquête du pouvoir dans un pays. Cet exemple-là, évidemment, est presque sans équivalent et explique bien pourquoi, à la différence de tant d'autres, le Che peut rester aujourd'hui un symbole compréhensible pour la jeunesse. Et ça sera le dernier mot. Si la figure du Che est aussi forte pour vous intéresser aujourd'hui, tant d'années après, c'est aussi du fait que sa mort prématurée, à 39 ans, est celle d'un homme encore jeune et qui associe, qui lie indissociablement dans sa propre image la jeunesse et la révolution.
J'arrive pour faire mon intro.
Sous-estimé met son bis de haut niveau. J'annonce sa couleur, indique la météo. J'avertis avec ou sans Kitty, je m'intéresserai. J'annonce sa couleur, indique la météo.
Tout comme Biggie, je flow one baby baby. Le Biggie des gangs outside en confort. Que vas-tu faire lorsque l'atmosphère s'assombrit et que tu flaires? Les deux fous des trois coups qui te guettent au buteur.
Ce soir, pas quartier. La chasse est commencée.
Tout le monde hip hop et tout plein de faux hippies qui se prennent pour des mecs du move, ça me fait chier. Tous pour un et un pour tous. La devise des boss.
Yo, ma devise c'est de foncer, défoncer, tu qu'à essayer de m'enfoncer, si je t'ai offensé.
Montez ces types là, y'a pas de lézard, tout balance, tout simplement noir, encore une fois, notre place, je pense.
Accepte l'homme que je suis, ma devise, respecte tout, tu verras qui je suis.
J'assume d'être chaud, un bon posséder ce son du soul swing. Marseille, je le place dans le cul.
Un jour on pleure, un jour on rit. Certains n'y arrivent plus, sa preuve de pierre et de psss. Un jour on pleure, un jour on rit. Certains n'y arrivent plus, sa preuve de pierre et de psss.
On marche la tête baissée avec la peur de regarder le quartier. Le ghetto français, le ghetto français, le ghetto français, le ghetto français.
Sans jeu de mots, on peut dire que le rap a droit de cité puisque même le petit Robert lui offre l'hospitalité. En l'occurrence, le petit Robert n'est pas un pote de banlieue, mais l'édition 95 du dictionnaire de la langue française, à la page 1604, entre Raoult et Rapace, rap en trois lettres, R-A-P, nom masculin venu de l'anglais du rap, donnait des coups secs. Style de récitation noire où les paroles hachées sont dites sur un fond musical très lisse. Ce que ne précise pas le dictionnaire, c'est que le rap, venu des ghettos noirs des grandes villes américaines, s'est développé en France à partir de 1990 et il a été adopté dans les banlieues comme une forme d'expression artistique et contestataire. Au départ, c'était une musique marginale et puis consécration ou récupération. Le nouveau son a attiré les maisons de disques.
Général Paris, 18ème section, premier bataillon d'élite en route, nos ennemis cherchent à contrer nos attaques, mais sans répit, nos troupes avancent en groupe serré. GIGN, armée, style, tempête du désert, nom de code, Rafale, expert en poseur de rimes. Guerre nationale, t'imagines la merde en ville, rime sur crime, explosion, torpille. Fous et couple, désamorce, c'est Mike en joue. What you gonna do, what you gonna do?
Tira pas le caquet, car dans mon genre, je mets le paquet. Wap, prépare-toi à gâter, prends du maquis, mac, toki, waki, cuir, fais kaki. Dépêche-toi, ton camp te fait révoquer. Je vais à cloquer à mon groupe qui cherche à se frotter. Le son du yaoutou frotté dans ta tête, ton camp va trotter. Tu désirais la guerre à présent, t'es exaucé. Je suis de mon côté, sinon pour toi, vaut le foncer.
Sorti de l'ombre, j'avance, quel que soit le nombre de pièges posés. S'enclenche la troisième guerre déclenchée. Mon ennemi fuit, traqué, l'offensive lancée. Mon fou comme une armée de choc, agit démasqué. Vert et vert, au microphone, style mercenaire. Camouflage large en action, t'es dans mon sillage. Prie pour ton dieu, le jeu se veut trop dangereux, mauvais présage, hold up, prise d'otage.
Apocalypse, guerre, sainte bataille, révolution. L'état de ma peau, censure, flip sur mes propos.
Ouais, bah,
chier, nous voici armés, micro chargé. Qu'est-ce que tu peux faire? Commençons, on se met à tourner.
Apocalypse, guerre, sainte bataille, révolution. L'état me map pour censure, flip sur mes propos.
Ouais, va chier, nous voici armés, micro chargé. Qu'est-ce que tu peux faire? Commençons, on se met à tourner.
La population réduite, ça croit de plus en plus le processus. Mon groupe frappe, les MC sont en danger. La guerre chimique est déclarée, le peuple désemparé, aucune fuite. Condamné, le choc instantané, mon groupe sévit, survit à travers Paris. Guérilla, le bomb rush dans ton area. Guérilla, mes mots sont prêts pour le combat. La bataille est amorcée, froide guerre forcée. De prendre la fuite, quand dynamite, ma voix sans forcer. Similitude avec le Vietnam, attitude rouge. J'agis en corps, c'est comme la soupe, une nouvelle fois.
Elle parlera de la situation en Amérique latine. Comme anecdote, on voudrait commenter que Paula a participé à la préparation d'un camp, d'un camp de jeunes avec 5000 jeunes en Amérique du Sud.
Si tu veux faire en place à un moment donné, tu me dis, je sais.
Bon. Bon, bonsoir à vous tous. Bonsoir. En premier lieu, je voudrais vous saluer de toutes les combattantes et combattants de la Latino-Amérique. Aujourd'hui, nous luttons contre le néolibéralisme, et surtout au Sud. Et une salutation des jeunes de son organisation, qui est le Parti Socialiste des Travailleurs en Uruguay, qui est la section de la 4e internationale. C'est un peu dur pour moi de parler d'un continent entier en 20 minutes, mais je vais faire le possible pour vous raconter les choses les plus importantes. Les premières choses que je voulais dire, c'est situer la situation de l'Amérique latine. C'est en remontant dans l'histoire, en remontant au 15e siècle de la conquête, il est arrivé en Amérique latine quelque chose qui n'est arrivé nulle part, ni en Asie, ni en Afrique, qui a été la destruction complète de la société latino-américaine. Et ça, c'est important parce que je crois que c'est un symptôme qui peut expliquer quels ont été les processus qui ont eu lieu là-bas. Parce que, après de la destruction, du génocide de part de la conquête, la destruction de la société, Amérique latine a commencé un processus de ce qu'on appelle, nous, la réorganisation. Mais en même temps, avec les choses qui nous sont restées du passé, et en train de construire de nouvelles formations sociales. Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, en Amérique latine, il y a beaucoup de formes de travail qui se combinent. Il y a des travaux qu'on peut appeler para-esclavagistes, dans les plantations de coca, ou dans les gisements d'or, ou à Madre de Dios, qui est un peu plus au nord de la cuenca amazonique. Parallèlement à ces formes de travail para-esclavagistes, il y a aussi des formes de travail clairement salariées. On peut dire alors que toutes les méthodes de travail sont liées de manière directe avec le capital, et que pour autant, il faut penser à un complexe d'institutions sociales qui répondent à ces formes de travail tellement disparates. Enfin, c'est un peu difficile de s'imaginer, mais c'est comme ça que ça se passe là-bas. Dans mon pays, il y a un auteur de livres que certains camarades connaissent, Eduardo Galeano, et peut-être vous le connaissez parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Les veines ouvertes de l'Amérique latine, qui dit que la division du travail consiste en que quelques pays se spécialisent à gagner de l'argent et d'autres à en perdre. Et nous, nous le prenons un peu comme une caricature de ce qui est en train d'arriver là-bas, parce que je voulais vous raconter que l'Amérique latine représente seulement 4% du commerce international, c'est-à-dire d'un continent entier qui représente seulement moins du 5% en ce qui concerne le commerce international. C'est pour ça Il est important de dire en Amérique latine que nous ne sommes pas un continent exploité, mais un continent exclu du capital. Et il est vrai qu'en Amérique latine, 46% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire, à peu près 200 millions de personnes ne peuvent recourir à ces nécessités basiques et que 4 millions atteignent la pauvreté extrême. Le chômage, qui est un phénomène qui passe dans tout le monde, et surtout dans les pays dépendants au sud, le chômage dépasse les 20%. Et les groupes de population les plus touchés sont toujours les indigènes, qui connaissent un chômage autour de 34 millions de personnes. Les jeunes entre 15 et 25 ans, où le chômage les touche à plus de 30%, et bien sûr les femmes. Il y a un chiffre très illustratif de la situation, que sur notre continent, à peu près 30% de la population, et 30% des foyers est constitué des foyers monoparentales. Ce que nous disons, nous, aujourd'hui, c'est une féminisation de la pauvreté. Que les femmes contribuent beaucoup à ce que... qu'il y a un contingent très important pour recourir à leurs nécessités. En revanche, nous comptons avec contingent militaire d'1 400 000 militaires. Ce 1 400 000 de militaires dépensent à peu près 17 000 millions de dollars à l'année. On peut y additionner le gâchis des forces armées. On ne peut pas oublier qu'il y a un appui en armes, en technologie, en hommes des États-Unis pour combattre le terrorisme, entre guillemets, bien sûr. Le cas le plus notable, bien sûr, c'est la Colombie. Vous, sûrement, vous avez entendu parler de la Colombie, un pays un peu conditionné, où les conditions sociales sont un peu tendues, et où le pays fonctionne plus de 144 groupes paramilitaires. Imaginez-vous ça dans un seul pays. Plus de 144 groupes de paramilitaires. Ces supposés antiterroristes de la police et de l'armée sont les responsables des assassinats, des disparitions de plus de 30 000 personnes annuellement. Syndicalistes, de paysans, étudiants, guérilleros, des gens et militants de gauche. Ça, c'est un peu le panorama de la situation actuelle de l'Amérique latine aujourd'hui. Car il est bien clair aujourd'hui qu'il y a un changement qui est en train de se produire ces dernières années dans les forces armées, dans ces guérillas antiterrorisme comme nom que aiment leur donner les bourgeois. Il y a une structure en général, dirigée par le Pentagone aux États-Unis, qui va vers la formation de corps d'élite, corps spéciaux, forces mobiles, ils les appellent eux, des forces qui nous tuent petit à petit. C'est le nom que on leur donne, nous, qui tuent, détruisent n'importe quel soulèvement populaire, comme nous l'avons dit dans un sommet dans notre pays. La pauvreté est la première source de subversion antiterroriste. Eh bien, on peut dire que cette armée fonctionne très bien dans notre... Les massacres en Colombie, au Mexique, ou la forte répression qu'a reconnue l'Argentine ces dernières années au Neuquén, nous montrent très bien que, à ceux d'en bas, on nous dit, le modèle néolibéral ne se négocie pas et ne se négociera jamais. Qu'est-ce qu'on veut dire avec ce modèle néolibéral? Vous le connaissez très bien. Mais je voudrais juste vous donner quelques explications pour que vous le situiez mieux. Au début de l'année 1990, à Washington, il y eut une réunion de caractère secret où nous, bien sûr, nous n'étions pas invités. On l'a connu comme le consensus de Washington. Dans ce consensus, ont participé des fonctionnaires des États-Unis, du FMI, de la Banque mondiale, de la Banque intermondiale américaine et des économistes, bien sûr, latino-américains. Là-bas, on a on a décidé de la loi néolibérale qui aurait lieu en Amérique latine, les différents traités. Et ces hommes ont décidé que la chute, les méfaits de ces politiques néolibérales devaient être remodelés. Et qu'aujourd'hui, il fallait transformer ces politiques nationalistes. Et nous arrivons aux années 90 où on arrive très rapidement à une libéralisation commerciale généralisée. On signe le traité de libre commerce au nord et le traité de libre commerce au sud et qu'on est comme Mercosur. Avec ça, je veux dire alors que la Banque mondiale, le FMI sont les principaux fabricants des futurs guerriers sur le continent. Puisque les rébellions populaires se composent par les plus miséreux, victimes de la décomposition capitaliste. Qui sont aujourd'hui les lutteurs ? Ce sont les indigènes, les paysans, c'est les hommes qui sont au chômage, les hommes et les femmes jeunes qui sont exclus, les habitants des villes qui n'ont pas de maison. Ce sont tous eux qui composent ces mouvements qui ont lieu aujourd'hui en Amérique latine. Ce sont alors les bases militantes des mouvements armés de cette fin de siècle qui se composent de ceux qui n'ont rien. C'est comme ça que se passe au Chiapas, ou dans les forces révolutionnaires de Colombie, ou dans l'armée de libération nationale de Colombie. Ce sont ces hommes et ces femmes, ces combattants qui n'ont rien, ces résistants sociaux qui n'ont rien, comme nous les appelons, qui cherchent aujourd'hui une alternative dans la lutte armée, qui sortent à la rue, qui sont prêts à conquérir leurs revendications. Ce ne sont pas seulement des organisations guérilleras en Amérique latine, ce sont aussi des mouvements sociaux en même temps qui demandent des revendications spécifiques comme la terre, le travail, la maison, la santé, l'éducation, et se déplient, développent simultanément des formes de lutte sociale et de lutte armée. Ce sont les luttes sociales qui se passent dans notre armée. Ce ne sont plus les mêmes luttes armées de la fin des années 60. Très souvent, ces mouvements sociaux des exclus, de ceux qui n'ont rien, s'auto-organisent et forment une série de mécanismes qui leur permet de s'auto-défendre face à la bourgeoisie et en plus soulèvent une résistance armée. Ça, c'est le cas alors du mouvement de paysans au Paraguay qui a eu une influence très importante des planteurs de coca en Bolivie qui ont une devise qui veut défendre ses plantations. Et le mouvement des sans terre au Brésil. Les sans terre au Brésil est une expérience que nous, pour être un pays limitrophe à eux, connaissons de près. C'est un mouvement de masse qui soulève la revendication de la terre. Chacun veut conquérir sa terre. Ils influent un grand nombre de secteurs du pays du Brésil et connaissent de grands affrontements contre la police. Et ce sont les premières victimes, qui sont tombées sous les coups de la police, car ils ont une politique de confrontation très dure et ils sont vraiment disposés à se gagner la terre, même si c'est par leur vie. C'est-à-dire, ce sont des organisations populaires qui, avec toute la légitimité, exercent ce que nous appelons la contre-violence populaire. Les organisations sociales font face à la violence des États nationaux de latino-américains, demandent leurs revendications avec les armes dans les mains. C'est dans ce contexte que le mouvement révolutionnaire Tupac Amaru, péruvien, que vous avez connu par les informations, recrute ces militants dans les couches populaires, ces militants qui sont rentrés dans cette ambassade pour parler avec les ambassadeurs, etc., étaient des hommes, des femmes dont la jeunesse était de 17-18 ans, presque tous étaient presque tous étaient des jeunes hommes qui fondamentalement cherchaient l'égalité, l'égalité, la dignité et vivre tranquillement. Il est vrai qu'aujourd'hui, il est un peu compliqué de parler de la révolution. Peut-être entre nous, c'est facile. Comme on entendait Banderarossa, l'international, c'est un peu plus simple pour nous. Mais nous savons tous que dans le monde, aujourd'hui, parler de la révolution apparaît un peu comme périmé, comme hors mode. Et que la corrélation des forces est assez défavorable en notre faveur. Ouais. Le mur de Berlin est tombé. La question du pouvoir ne se pose dans aucun des programmes politiques. Tout à l'heure, Daniel faisait des références à l'armée. Il n'y a pas de référence car à l'Est européen, ne peut pas nous servir comme référence. Que la question du pouvoir ne se pose pas pour nous dans les programmes politiques des organisations guerrières. Même dans aujourd'hui dans le ZLN. Mais aujourd'hui, je suis très surprise de voir des drapeaux de le ZLN et des t-shirts de le ZLN. On représentait un peu pour nous en Amérique latine une sorte d'espoir que nous pouvons continuer à lutter, que oui, on peut gagner. Et la question du pouvoir dans sa globalité n'est pas posée comme elles ont été posées il y a une trentaine d'années. Alors pour nous aujourd'hui, c'est un problème. C'est un problème très grand. Car la discussion de la prise de pouvoir, il y a beaucoup d'insurrections populaires, il y a beaucoup de soulèvements populaires, mais en général, généralement répondent à des questions spécifiques, concrètes. Nous voulons une terre maintenant, nous voulons un travail tout de suite, nous voulons pouvoir étudier. Ce sont les revendications aujourd'hui de ces mouvements et de ce soulèvement populaire. Non, pas cette conception plus générale, en parlant de la révolution, de la prise de pouvoir, de remise en cause d'un système. Ce sont des hommes et des femmes fondamentalement jeunes, désespérés, qui cherchent une issue et qui prennent les armes pour s'autodéfendre des systèmes néolibéraux qui existent aujourd'hui et aussi de lutter pour une existence plus digne. En revanche, j'aimerais poser, j'ai très peu de temps, mais je voudrais qu'il reste quelques questions pour le futur, pour que l'on puisse réfléchir ce soir. Est-ce qu'en Amérique latine, les voies légales, institutionnelles, pourront mettre fin un jour aux inégalités sociales et apporter la démocratie que connaissent différents pays? Cette question, est-ce qu'on peut se la poser aujourd'hui? La voie institutionnelle, la voie légale, peut-on penser à ces voies-là pour arriver à une société légale, égale, juste, démocratique? C'est une question que je vous pose et c'est à vous de réfléchir. Et nous, je vous dis clairement que dans notre pays, nous pensons que non, que nous n'obtiendrons jamais par ces voies-là. Et qu'en plus, que ces soulèvements, ces forces révolutionnaires continuent à se soulever contre ce système. Alors, il est vrai que beaucoup des courants guerrieros historiques en Amérique latine, que vous tous avez dû connaître à un moment, veulent mettre à bas le système politique dominant. Au Salvador, au Nicaragua, Tupac Amaru, Uruguay, qui ont eu des renoms importants, aujourd'hui sont intégrés dans des forces parlementaires, aux législations, à l'institutionnalité bourgeoise. Et leur position n'est pas très différente d'aujourd'hui de la social-démocratie ou de la gauche réformiste. Ça, c'est un autre de nos gros problèmes en Amérique latine. Où sont nos références aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux soulèvements, des soulèvements populaires nouveaux avec d'autres générations, d'autres personnes. Et d'un autre côté, nous n'avons plus de modèles qui nous servent de référence. Il n'y a plus de référence histoire comme vous pouviez en avoir avant. Il n'y a plus d'expérience concrète. Aujourd'hui, les références que nous avions sont intégrées dans des parlements, dans des gouvernements bourgeois. Et ils cogèrent ce qu'il se passe. Et ça, c'est un autre des problèmes qui se posent pour nous. qui est à l'ordre du jour dans l'agenda de l'Amérique. Mais pour conclure maintenant, que la dynamique de la lutte de classe et les expériences de résistance armée que beaucoup de mouvements sociaux ont utilisé en Amérique latine ne disparaîtront jamais, mais tout au contraire, parce que la brutalité néolibérale ne laisse aucune autre alternative au peuple, et que petit à petit, nous continuerons à forger des guévaristes, des combattants, des femmes, des hommes, qui répondront à cette image que Daniel décrivait tout à l'heure. On continuera à former des guévaristes, des jeunes comme au Pérou, les armes à la main pour le droit à la dignité et à la conquête d'une société pour toutes et pour tous.
Impossible à contrer, chacun sur sa case reste lésé. Attends que l'autre se manifeste ou vienne tester. Phase offensive comme au chess et ne compte que sur ton intellect, mec check. Mon adversaire sera sûr en échec et maté. Ici on appelle ça la stratégie chasse et croisée. Fou technique élaborée à cause d'un système basé sur la dualité. Si j'y mon ennemi, en vérité voici ma réalité. Se battre pour accroître les chances de survie. Moralité, la peine de mortalité sera la pénalité. Tiens le toit pour dire
18ème, 19ème, 93. À croire que tous ces quartiers sont les mêmes et tous se croisent au même point d'intersection. Vont connexion, font ma section, fondent leur conception. 93, 13, malaise, j'y parle de malédiction. 96, les oufs sur les braises pour brûler tout, brûler toutes ces tours qui nous entendent crier au tour dans ces fournées. Clôturé par des barbelés, dur d'avancer sans qu'on se blesse. Sur ces pavés, tantôt éclaircis, tantôt obscurcis. On représente ceux qui stressent, agressent, mais progressent en diagonale pour s'imposer dans toute la France hexagonale. Combat le mal par le mal avec l'esprit mystique des guerriers asiatiques. Ha! Technique, fou technique, mec, pas voué à l'échec sur cette planète, pas nette là où sagesse s'arrête. Commence ma démence est seule et déboussolée, ma vie n'a plus de sens, gars. Condamné aux travaux forcés, forcés de tourner en rond interne dans une maison bétonnée non capitonnée. Où damnés sont les couloirs sans fin qui mènent à la pendaison. Les miens cherchent en vain les clés qui ouvriront les portes de la raison.
Plus mon concept, faut que ça monte dans les ailes.
Reste psycho, style, nunchak, micro, stratégie mystique, flow.
Mes adeptes mettent le monde en échec.
Voilà ma secte sous les fakes, nigo.
Plus mon concept, faut que ça monte dans les ailes.
Reste psycho, style, nunchak, micro, stratégie mystique, flow.
Le monde est en échec.
En échec. Voilà ma secte.
Original menace to society. Well. Hell.
Jamais rassasié, préengêné la part du lion. À tout prix, sans idée de distribution. C'est quand on fait les comptes qu'on réalise les proportions. Cas un drapéi qui n'a pas d'opposition. Car
c'est humiliant de voir toujours les mêmes.
Trop fatigue.
Juste pour élever avec dignité
une digue.
Il fait de l'ombre à l'émulation.
Par la brigue, l'espère. Lui est un homme d'affaires, pas digue.
Okay. Tout ce qu'il capitalise, le patrimoine.
Tu les rugues.
Petit apprenti, voilà comme accéder au statut de big. Apprends tes gens à bon placement.
Une entre en ligue, des champions sans mérite. Il brille, il prodigue, mais n'hésite pas quand même à faire le zig. Le rêve de toute une vie contrôlée à Nevers qui ne bute. Chacun veut obtenir la part du stop, chercher leur truc. Alors que derrière lui, que reste-t-il?
Il m'a fini d'arrive. Oh là, dis-la, dégainé, nine.
50-50, la colle partage du magot.
Les gens auront des pouvoirs sûrs, c'est pas des ragots.
50-50, la colle partage du magot.
Le pouvoir a des gens arrêts, ils mènent les gens en bateau.
50-50, la colle partage du magot.
Le genre a des pouvoirs sûrs, c'est pas des ragots.
50-50, la colle partage du magot.
Le pouvoir a des gens arrêts, ils mènent les gens en bateau.
Tu fais chier, t'as prononcé yo yebi, mais tu veux tout garder. T'as souvi tes envies, sinon tu deviens cinglé. Tu t'ennuies, tu déprimes sans arrêt. Tu te conduis comme un enfant, comme un attardé. Reste sur tes gardes, ça va barder, on va te barber. Vite fait, bien fait, ton fric t'es joué. Tu seras largué, défoncé sur la chaussée. Plaqué sur une grille de métro pour te réchauffer.
Y'a pas un Frodo, s'il vous plaît.
Non, 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 y'a pas.
Mais pour l'instant, t'es loin de tout ça. Pour toi, la vie est belle et tu t'en bats de ce qui se passe. En bas de l'échelle, t'es au-delà. Tu contrôles le système, t'es au-dessus des lois. Et quand tu pries le ciel, c'est pour du superficiel, du superflu. C'est pour que l'argent afflue, ou la flore y afflue. Place à l'enthousiasme, à l'achat, la vie de Pacha. Avec ta femme Natacha, combien de fois elle t'attacha? Oli, sans même rester poli. Sadomaso et Ménéste, bravo, c'est du joli. Oli, sans même rester poli. Sadomaso, Ménéste, bravo, c'est du joli. 50-50, à quoi le partage du magot?
Le genre aura des pouvoirs sûrs, c'est pas des ragots.
50-50, à quoi le partage du magot?
Le pouvoir a du genre et il mène les gens en bateau.
50-50, à quoi le partage du magot?
Le genre aura des pouvoirs sûrs, c'est pas des ragots.
50-50, à quoi le partage du magot?
Le pouvoir a du genre et il mène les gens en bateau.
Tu roules sur l'or, ignore l'agonie. Au bord de la route, mon avis, ton cher train de vie de folie dégoûte. Je te capte pas, avec tout ce que t'as, le capital que t'as, tu fais que dalle. Quel est ton état d'esprit? Dans quel état est ton esprit? T'inspires le mépris, trop de délicats, mis de ton mi, vomi au promis.
Le cerveau servile au service de l'économie.
Non mais, non mais, non mais, ouais, ouais.
Comprends-tu qu'ils sont là pour nous faire la misère? Rejoignent l'extrême et commencent à nous extraire. Tous les antagonistes suivent officiers pieds sous terre. Le cercueil du militant et du militaire. On fait de l'histoire une anecdote passagère. Mais les événements dont l'humanité n'est pas fière. Peu à peu se perpétue à notre ère. Allez, en est-il recommencement linéaire? On extermine des civilisations prospères. Dans ce monde, c'est les fausses valeurs qu'on récupère.
50-50, à quoi le partage du magot?
Le genre a des pouvoirs sûrs, c'est pas des ragots.
50-50, à quoi le partage du magot?
Le pouvoir a du genre et il mène les gens en bateau.
50-50, à quoi le partage du magot?
Le genre a des pouvoirs sûrs, c'est pas des ragots.
50-50, à quoi le partage du magot?
Le pouvoir a du genre et il mène les gens en bateau.
Légitime processus. À toi le partage du gâteau. À toi le partage du magot. Je veux ma part du gâteau.
Hey Ruben, t'es de retour.
T'es
passé nous voir pour la dernière
fois.
96
abuse, quoi voilà. Tiens, man, wagwan. Moi, je comprends pas les hip-hop en France. J'entends les soirées, il y a pas de meuf. Il y a toutes les mecs. Il y a Queensbridge style, il y a Wu-Tang style, il y a this style, il y a that style.
Où sont les styles? Ouais.
Tu peux savoir la vérité sur la technique dont j'ai hérité. L'authenticité sans publicité, tu vas imiter. Limité pour toi quand je viens pour militer. Les faux types ne peuvent plus lutter. La vie devient une bavure dure dès que tu oublies ta culture, l'imposture de ton personnage. Fétale d'image pure de quelqu'un d'autre que toi. Tu voudrais être quelqu'un d'autre que toi. Mais dommage, tu n'es que toi. Le bon prononciateur, dénonciateur. Jamais victime du leur symptôme de l'enciateur. Qui parle à tort et à travers. Mort dès que je le prends de face. Ou à revers quand je défourage, plus personne n'est couvert. Je les laisse ouverts, ouverts, ils sont découverts. Que je suis classique comme une musique de Schubert. Super quand je prêche comme un pasteur. Crée la brèche chez les imposteurs. Qu'ils soient rappeurs ou bien toasters. Je les envoie vers l'exil. C'est ça, faut qu'ils cessent, même si ça nécessite qu'on s'excite. Trop ne nous connaissent pas, n'est-ce pas? Ces connasses n'écoutent pas, les messes pas parce qu'ils passent plaisent. Les laisse pas, ils se croient trop, laisse pas, moi je les vois. Car leur flûte ne passe pas, leur flûte ne passe pas. Que de la beuflant pour la yaska.
Remarqué comme l'encre, mais t'es qu'un trait de craie. Pas concret, t'as craché sur ce crâne et passe car t'as rien. Remarqué comme l'encre, mais t'es qu'un trait de craie. Pas concret, t'as craché sur ce crâne et passe car t'as rien. Remarqué comme l'encre, mais t'as qu'un trait de craie. Pas concret, t'as craché sur ce crâne et passe car t'as rien, vrai.
Hey, MC, t'as un chat dans la gorge ou quoi? On va te mettre une souris dans le cul, peut-être qu'il descendra. Adore, c'est ça nous pour toi. Ouais, je vois que tu te fourvoies. Tu me vénères, je ne peux pas rester courtois. Écoute ma voix qui vient, qui te zappe. Comme tous les poèmes MC qui avaient tout misé sur la sape. Ce lyrics te chiffre, des chiffres, le combat guerre ou grippe. Pleure et renifle, je te frime si je regarde trop les vidéos clip. Ton fric de vos types, c'est d'avoir le même look, les mêmes sapes, le même slip. Le dernier prototype de type, les mêmes stéréotypes. Dégage vite, toi ton imposture, ton allure de caricature. T'as pas nos puissances, ta vie ne joue pas au dur. Une très très belle casquette, des baskets top, un beau sur bête, lunettes. Mais ton style pue comme une vieille chaussette. Tu veux croquer la pomme, tu rappes avec ton canis, tes fausses tentantes. Tu veux ramener la merde avec tes amis, tu t'enfonces dedans. En général, ma science orale, sous forme de rafale. Fais pas la morale, te rappelle un principe qui est fondamental. Sois toi-même de façon totale, là t'as l'air d'un débile mental.
Marqué comme l'encre, mais tes quatre traits de craie, pas de concret. Cracha sur crâne et face, car t'as rien de vrai. Marqué comme l'encre, mais tes quatre traits de craie, pas de concret. Cracha sur crâne et face, car t'as rien de vrai. Marqué comme l'encre, mais tes quatre traits de craie, pas de concret. Cracha sur crâne et face, car t'as rien de vrai. Marqué comme l'encre, mais tes quatre traits de craie, pas de concret. Cracha sur crâne et face, car t'as rien de vrai.
Combien de faux rappeurs, avec de faux concepts, acceptent vos concepts qui les interceptent. Vois des clichés, ou vois tes parties de nichés. Tricher, j'explore des contrées qui restent à des clichés. Tu parles que de business, tu parles que de concepts, tu parles de crimes dans tes rimes. Fais croire que tu te confesses, mais souvent je n'y crois pas. Donner qu'un appât, d'appât, honte de tromper les gens comme ça. Tu n'es qu'une lobe, ça, si tu raisonnes comme ça. Les MC comprennent pas, et deviennent fous, bêtement, car je ne bluffe pas. Mon style délaisse en sous-vêtements, je passe les nazes qui passent, mais son câble devant mon place. Il me manque une casse à puce, comme un tasse, t'es bouffé les grâces. Brasse les rimes pour ton extase, casse ma tech à la Elina, stature, kamikaze, t'écrase. Toi et ton style, ton casse, ton prime avec tragédie. T'élimines sur l'instru de Mistati.
Marqué comme l'encre, mais t'as qu'un trait de craie, pas de concret. T'as cracha sur le crâne comme car t'as rien de vrai. Marqué comme l'encre, mais t'as qu'un trait de craie, pas de concret. T'as cracha sur le crâne comme car t'as rien de vrai. Marqué comme l'encre, mais t'as qu'un trait de craie, pas de concret. T'as cracha sur le crâne comme car t'as rien de vrai. Marqué comme l'encre, mais t'as qu'un trait de craie, pas de concret. T'as cracha sur le crâne comme car t'as rien de vrai. Marqué comme l'encre, mais t'as qu'un trait de craie, pas de concret. T'as cracha sur le crâne comme car t'as rien de vrai. Marqué comme l'encre, mais t'as qu'un trait de craie, pas de concret. T'as cracha sur le crâne comme car t'as rien de vrai. Marqué comme l'encre, mais t'as qu'un trait de craie, pas de concret. T'as cracha sur le crâne comme car t'as rien de vrai.
Chauffeur, sa ville à sa piscine. Fréquenter les lieux, les hôtels les plus luxueux. S'empiffrer de foie gras dans les restaurants les plus somptueux. Débuter la soirée en claquant l'oseille au casino. Jouer 4-5 plaques, entrer sur un seul numéro. Puis s'en aller tranquille, les poches toujours pleines de liasses. Suivi par toute une bande de tasses, alléchées par le cash. Continuer la soirée relax dans un grand jacuzzi. Cela coulait douce,
réveillé le matin, squatté au lit pendant des heures. Discuter business contrat avec son manager, ouais. Qui n'a jamais rêvé de partir aux quatre coins du monde. Jet privé, équipage prêt en moins de 10 secondes. Atterrir sur la piste, apercevoir la foule en délire. Le comité spécifique pour pouvoir t'accueillir. Se faire escorter par quatre gorilles jusqu'à la turvoie. Foncer jusqu'au cercle, s'échauffer la voix. Monter sur la scène, les spots braqués sur la figure. Lâcher son flow, faire monter au max la température. Après un show au top, signer une tonne d'autographes. Se retirer dans les loges, jouer les gosses devant les photographes.
C'est ça la vie d'artiste.
Qui n'a pas rêvé de mener la vie d'artiste. Pouvoir se la kiffer et surtout pouvoir en vivre. Qui n'a pas rêvé de mener la vie d'artiste. Pouvoir se la kiffer et surtout pouvoir en vivre.
Il est 1h de l'après-midi. En train de combattre dans mon lit. Hier j'ai fait la bringue avec mes potes à base de Bacardi. Bon, faut que je me fais le, j'aille prendre ma douche. Avant ça j'enchaîne quelques pompes histoire garder le juice. Puis je vais yesh yesh yo dans mes tuchos. Tu te demandes que j'ai damé, c'était pas des faillots. Je rentre pas dans les détails, c'est vraiment sans intérêt. Maintenant que je me sens tout léger, je veux pouvoir enfin tailler. Je prends le métro, un peu de repos, je défrauds. Et toute la journée j'esquive tous ces PD de leur contrôle. Quand je vois une belle fille sur le quai, je l'accoste et je la traite de tasse. Mais quand elle me tèche comme un malpropre, il paraît que si je parle ainsi des meufs, c'est que je suis trop frustré. Mais moi, tout ce que je demande, c'est que ma peau qui vite soit bien lustrée. Et comme d'hab, j'arrive toujours body au studio. Biz et le parano sont en train de se taper sur le jeu vidéo. Je prends la gagne, y'a que ça à faire, j'ai pas d'inspiration. On s'excite comme des gosses là-dedans, ça pue la transpiration. Quand on arrive en fin de journée, je m'aperçois que j'ai rien foutu. Espérons que demain, je serai un peu plus dans le que tru. Eh, au fait, tu voulais connaître ma vie d'artiste. Si tu la trouves chouette, tant mieux pour moi, elle est plutôt triste, ouais. 1996 pour 1997. Tout simplement noir, toujours en plaque, soit qu'il se passe, t'as.
Tu sais que ça m'arrive.
Comme un porte-drapeau, ouais. Dispo pour serrer les mules dans un étau. Prendre la réalité avec des belles séquences. Ces images, sache choisir ce qu'on y met autour. Si j'en parle, mais que je parle de moi, j'y mets des formes et des freins sur chaque mot. Joue avec les mots fils, c'est ton job. Mon job, jouer avec les MC.
Mais ça, le MC.
Casse, casse, vécu. Travailler une vertu sans reproche. Avoir un diplôme, hardcore en poche. Pour sans cesse. Régler ses problèmes en espèces, sans traces de cinéma, une liasse de textes gras. J'officie dans le clan des MC, endurci comme un vieux cross de DMC. Assieds-toi parce que si toi ton rap est factice, et moi je ratisse, fils. Je suis précis, farci au putain de son de Marseille, saisi. Ravi quand les groupes ici représentent. Planter mes versions dans l'industrie du disque et taxer le reste du pain et saucer le cœur du plat. Ce qui reste quand un sale MC s'en va. Le RAP entre vous et moi, trop de sales groupes salissent le flow. Les sauts swing ex-radical restent radicaux. Trop de sales groupes salissent le flow. Les sauts swing ex-radical restent radicaux. Je te boxe mes rimes et si tu sur mon ring. Même si tu esquives mes mots avec mon mic et je te laisse KO technique.
Ne me pousse pas, le troisième œil est avec moi. Et si t'insiste, la FF te donne un sacrifice. Fils, les bagarreurs du mic ne plaisantent pas. Bastard, amour mafia, te le dira. Bienvenue dans le traquenard. Égare au groupe Afrique pourri conçu par des maisons de disques super profil. Karim, le roi du soul, swing radical, nous sommes.
Sonne l'alarme, sonne, sonne.
Je mène ma guerre avec mes partenaires, mes alliés, les guerriers du micro d'argent. Pas de trêve pour une bataille sanglante.
Tout ce qui bouge.
On traîne comme des aliens, c'est pas la peine de te le cacher dans les coins des rues qui nous appartiennent. La main sur le microphone, je chasse tes mauvaises ondes.
Tu es un champion dans ton monde, fils.
Ma réalité, c'est le RAP, le RAP. Et laisse-moi 20 mesures d'instru pour finir et partir comme une massue en forme de sud. Chaud bouillant dedans, j'en cap les faux truands, je suis friand. Avec mes DJ rebelles et majestiques du soul. Sweet. De la graine sur scène, je mène mon job tout à fait. Ils sont pas épargnés.